Bonjour et bienvenue dans ce numéro 3 de Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en mars 2011. Bonjour à tous, bonjour Cyril.
Bonjour à tous, bonjour Cobal.
Alors, comment ça va ?
Eh bien, ma foi, je vais bien.
Alors, pour ce troisième numéro, nous aurons donc quelques news. Puis, alors, de quoi tu nous parleras ce mois-ci ?
Alors, ce mois-ci, j'aimerais vous parler de deux jeux. Le premier s'appelle Deadline et le deuxième s'appelle Vampire. Vous en avez peut-être entendu parler.
Quant à moi, je vous parlerai de Final Frontier et je vous parlerai également des Ombres d'Esteren. Et tout de suite, les news. Comme tu le sais, je suis allé récemment en convention à Rennes pour la convention Eclipse, dont c'était le 9e volet, je crois. J'ai donc pu rencontrer pas mal de gens et j'ai fait plein d'interviews intéressantes que tu pourras toi aussi écouter sur le site puisque tu n'étais pas là. J'ai pu rencontrer l'association Opal, donc dont l'objectif premier est de faire se rencontrer des rôlistes en recherche de groupe. Donc ils ont quelque chose comme 1300 membres, je crois, ce qui est énorme.
1300 membres.
Oui, 1300, c'est gigantesque, non ?
Ah oui, c'est hallucinant.
Et donc ils ont maintenant une répartition nationale, c'est-à-dire que pour chaque région, vous pouvez trouver sur ce site groupe à votre pied.
Mais c'est c'est un peu l'équivalent des sites, des listes de discussion JDR. À l'époque où je cherchais des groupes et à l'époque où j'étais plus actif dans le milieu du jeu,
oui.
Il y avait des listes de discussion région par région.
Ah oui, exact, oui, effectivement.
Alors, je sais pas ce qu'elles sont devenues.
Je me souviens de JDR Paris, oui, c'était des Yahoo Group ou
oui,
quelque chose comme ça.
Oui, voilà. Et c'est un petit peu l'équivalent, parce que ce millier de membres, c'est des membres qui cotisent à une association ou ce sont des gens qui se sont inscrits sur un site web pour retrouver d'autres joueurs ?
Ah, ce sont des gens qui se sont inscrits sur le site pour trouver des joueurs. Le nombre de membres actifs cotisants à l'association, il me semble qu'ils sont beaucoup moins nombreux que ça. Mais en fait, ce sont surtout ceux qui sont chargés de l'administration, de l'organisation, etc. Ce sont également ceux qui se déplacent en convention. C'est donc pour ça que j'ai pu les voir. Ils font des choses très intéressantes.
Par exemple ?
Alors, notamment, donc ils font des choses avec l'hôpital Necker à Paris.
Des enfants malades.
Voilà. Et également, ils organisent des parties de jeux de rôle pour les aveugles. Et d'ailleurs, il y a actuellement sur France 5, dans une émission dédiée aux malvoyants et non-voyants, un petit reportage sur ce qu'ils font. Et c'est vraiment très, très sympa.
Je pense, mais c'est vrai que je n'y avais pas réfléchi avant, mais je pense que le jeu de rôle est vraiment parfaitement adapté aux aveugles,
oui,
en fait.
Oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment idéal et eux, ils ont eu l'idée de proposer des actions en ce sens et c'est vraiment bien. On voit la réaction des joueurs en question et ça fait plaisir à voir.
Oui, c'est disponible sur leur site web peut-être ? Ils ont une section témoignage ou action ou...
En fait, il y a sur le site des choses qui sont consacrées à l'organisation de ce genre de choses, mais bon, c'est plutôt pour les membres actifs, etc. Mais sur le site de France 5, on peut voir le reportage en question.
D'accord, le site de France 5.
Voilà. Mais je ne sais pas si au moment de la diffusion de ce podcast, le reportage sera toujours là.
Ah oui, parce que souvent, c'est malheureusement
ouais, c'est limité à une semaine,
7 jours
les
émissions.
Quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais mettre le lien sur le site parce qu'à mon avis c'est quelque chose d'assez sympathique et qu'il faut soutenir. Également, je voulais aussi revenir sur notre site lui-même car j'ai enfin eu le courage de mettre en place un module de statistiques pour qu'on sache un petit peu combien de visiteurs nous avions. Alors, sache que nous n'avons pas moins de 300 visiteurs par mois, ce que je trouve particulièrement énorme.
Tu es sûr que ce n'est pas que des robots spammeurs?
Alors non, car ceux-ci sont décomptés à part. Non, ce sont de vrais gens et a priori, personne ne les oblige à écouter. Donc voilà quoi.
Ça, ou alors l'un d'entre nous passe son temps à cliquer sur son navigateur, refresh, refresh, refresh.
Ça, d'un coup, j'ai un doute. une dernière chose, je pense que dans l'un des prochains numéros, je ne sais pas encore lequel, je ferai un numéro spécial jeux indépendants, c'est-à-dire donc ceux qui ne sont pas ou peu diffusés dans le commerce. Donc je te ferai probablement lire des jeux complètement improbables, donc il faut que tu y sois préparé.
No problemo, je relève le défi.
Eh bien écoute, puisque tu me sembles très en forme, je te propose de commencer. Tu vas nous présenter quoi ?
Alors, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Deadline.
Alors, Deadline, c'est quoi ?
Alors, Deadline, avant de dire exactement ce que c'est, je vais vous poser une question. Les scientifiques annoncent qu'une catastrophe va détruire la vie sur Terre. Que faites-vous ? Que fais-tu, Cobal ?
J'esquive.
Tu esquives, mais imagine qu'à la télé, on t'apprenne que les scientifiques ont découvert que je sais pas, un astéroïde va détruire la Terre, comme pour les dinosaures. Donc tu vas mourir d'ici quelques temps. Que fais-tu du temps qu'il te reste ?
Une grande campagne de Toan.
Ah, mais c'est une excellente façon de passer ces derniers moments avant la fin du monde.
N'est-ce pas ?
Sauf qu'on dit Toan, mais nous y reviendrons une autre fois. Donc tu peux effectivement jouer au jeu de rôle ou alors tu peux essayer de réagir. Donc c'est le thème de Deadline. Deadline, c'est une campagne pré-apocalyptique par opposition à une aventure située dans un monde apocalyptique ou post-apocalyptique. Donc ici, la civilisation existe toujours, il y a toujours Internet. Justin Bieber, Carré VIP, ça existe toujours.
Ah bravo, ça fait envie.
Oui, c'est pour ça qu'on se dit que le post-apocalyptique a ses vertus aussi. Mais là, donc, tout cela existe encore. Et en revanche, on découvre, les scientifiques découvrent qu'un rayonnement maléfique va détruire la Terre bientôt. Alors, je risque pas l'envie de vous lire la quatrième de couverture, très vite fait. Alors, en guise de conclusion, dit un rapport relatif à l'étude du rayonnement du 6 janvier 2041. Il ressort des différentes observations et calculs susvisés que ledit rayonnement frappera la Terre le 17 septembre 2082 à 18h25, temps universel coordonné. Les premières estimations indiquent toutes que toute forme de vie sera annihilée instantanément. Voilà, donc c'est la base de toute cette histoire. Nous apprenons que la Terre va être détruite. Que faisons-nous ? Comment réagit l'humanité face à une catastrophe annoncée longtemps à l'avance ? Parce que donc l'aventure commence à la fin des années 2030 et se termine donc en théorie le 17 septembre 2082 à 18h25 où là tout le monde meurt, donc tout le monde a perdu.
D'accord, mais dis-moi, ça a l'air formidablement optimiste comme jeu.
Oui, c'est vrai que le principe n'est pas fondamentalement optimiste. Ceci dit, est-ce qu'un jeu optimiste est pour autant un meilleur jeu ? Ça, c'est pas sûr du tout. Donc, l'humanité se pose la question. Doit-elle s'unir pour trouver des solutions ou jouir du temps qu'il lui reste ? Bon, chacun va répondre individuellement à cette question. Cobal a choisi, hein, pour lui, ce sera une bonne partie de jeu de rôle. Dans le cadre de Deadline, ce sera bien évidemment la tentative de résister ou de faire en sorte que la catastrophe puisse être esquivée comme dit Cobal. Sauf que bon, là je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on parle d'une campagne donc à secret, donc
à rebondissement,
donc je ne dis rien. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu, donc, c'est que j'apprécie beaucoup cette idée de course contre la montre à l'échelle mondiale, et que si on sort un petit peu du jeu, en fait, on se projette rarement dans l'avenir à long terme, mais Bon, je crois que pour beaucoup de personnes, quand on réfléchit à l'évolution du monde dans le futur, si jamais on périt pas tous dans un accident nucléaire ou que sais-je, on imagine que l'humanité va apprendre à travailler ensemble, que la faim dans le monde va disparaître, ce genre de
Oui,
choses.
sûrement.
Disons à 300 ans, 500 ans, etc. Sauf que là, dans le monde de Deadline, il reste moins de 50 ans. Moins de 50 ans pour partir d'une situation pas forcément mirobolante
Réjouissante, ouais.
jusqu'à la fin du monde. Donc là encore, je m'avance pas énormément, je décris juste le tout début, mais l'humanité va avoir une sorte d'électrochoc et va se dire il faut qu'on trouve des solutions. Donc il va y avoir la tentative de travailler tous ensemble pour. Bon, pour trouver un moyen d'échapper à l'annihilation à la fin de la vie humaine sur Terre. Donc, je trouve que les possibilités couvrent le concept de la pré-apocalypse, de cette arrivée progressive vers une date butoir. Je trouve que c'est très très intéressant. Il y a des tas de choses à explorer. Et le jeu a ce grand mérite. À ma connaissance, c'est le premier jeu comme ça. C'est le premier jeu qui vraiment se situe dans ce contexte-là. Et voilà, donc déjà pour moi, ça c'est son grand mérite.
D'accord. Et ensuite, du coup, que joue-t-on dans ce jeu?
Alors, on joue des gens qui, et ça c'est aussi une originalité, vont parcourir ces 50 ans jusqu'à la deadline, jusqu'à
D'accord.
l'expiration de la date limite avant la destruction de la vie. Et donc on imagine, au début ils sont jeunes, ou alors ils seront remplacés par leurs enfants, quelque chose comme ça,
D'accord.
et ils seront amenés voilà, à vivre toute leur vie avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
D'accord.
Voilà. Alors juste avant de... Avant de. Donc là, j'ai juste expliqué le principe, le concept de base. Avant de parler plus de la façon dont c'est implémenté, on va dire, dans Deadline, dans le bouquin, j'aurais envie de faire un petit aperçu des considérations techniques. Donc, déjà, le jeu est imprimé édité par John Doe, donc l'éditeur.
D'accord.
Donc 112 pages, 23 €. Il est un petit peu plus grand que de l'A5, donc il est très pratique à emporter dans les transports ou.
Et c'est le format John Doe
Oui, voilà,
classique.
c'est le format classique effectivement chez cet éditeur, mais qui je trouve a ce grand mérite d'être voilà, très transportable. Il comporte aussi un système de jeu original, donc on peut en parler vite fait, je pense.
Oui.
Tout simplement, il faut lancer un nombre de D6 égal au niveau de votre compétence. Et si le résultat, enfin si la somme des dés atteint le seuil demandé, on va dire, les résultats pairs indiqueront le degré de succès. Imaginons que j'ai un niveau 3 dans ma compétence parler. Je vais au podcast, il faut que je fasse une réussite à 10. Je lance 3D, je fais 1, 5 et 6. Ça fait 12. Donc j'ai dépassé le seuil, donc ça marche. Et par ailleurs, j'ai un succès parce que j'ai fait un 6. J'ai une qualité de succès.
D'accord.
Voilà, bon, donc ça c'est très brièvement, c'est la base
Ok.
du concept. Ensuite,
C'est-à-dire que qu'en fait, c'est un podcast où tu ne ferais aucun E ou quelque chose comme ça.
un podcast que tu n'aurais pas à éditer durant de longues et laborieuses heures. Ouais. Espérons. Alors ensuite, donc il y a les compétences, ça c'est très classique, hein, conduire une voiture, ce genre de choses. Et il y a également l'aspect. C'est ce qui fait un petit peu l'originalité du système. Ce sont des compétences, en quelque sorte, qui donnent la possibilité d'obtenir des dés de bonus en échange d'un malus équivalent sur un futur jet de dés. C'est-à-dire que c'est comme une réserve de dés d'action en plus. Mais pour pouvoir la réutiliser, cette réserve, dans le futur, il faudra équilibrer son karma quelque part. Faudra accepter des malus sur d'autres jeux de dés. Bon, attention, j'ai pas testé le système, je n'ai pas fait jouer à Deadline.
Donc. Est-ce que tu peux donner un petit exemple
Oui.
Pour voir.
Imagine que j'ai l'aspect aime bien la bière à 2. Voilà. Je suis en train de jouer je suis en train de faire un podcast avec mon ami Cobal. Il se trouve que j'ai 3 en parler, en compétences parler. Donc je décide, et là c'est mon choix, d'augmenter ma compétence avec soit un dé, soit deux dés, enfin soit 0 dé, soit un dé, soit 2 dés, c'est-à-dire au maximum mon aspect qui est à 2, hein, je rappelle, en M la bière.
D'accord.
Voilà, du coup, au lieu de lancer 3 dés, disons que je lance un dé de plus, comme ça je me laisserai la possibilité de lancer 2 dés de plus une autre fois.
Oui.
Donc je lance 4 dés,
mm-hmm.
Et imaginons que je fasse un 2 en plus. Souviens-toi que j'avais eu 12, je fais toujours 14, donc c'est toujours réussi. Mm-hmm. Mais comme j'ai fait un 2, les 2, les 4 et les 6 comptent pour des qualités de succès,
de réussite.
De réussite. Mm-hmm. Du coup, j'aurai 2 qualités de réussite au lieu d'une.
D'accord.
Voilà. Donc en revanche, par la suite, lorsque je serai dans le métro, j'ai la compétence adresse à 1, disons. j'ai la compétence adresse à 3.
Oh.
Soyons fous. Mais par ailleurs, j'aime la bière et donc j'ai dépensé un dé.
Oui.
Et ce dé-là, je vais devoir l'accepter comme malus pour ne pas marcher sur les pieds des gens et ne pas me faire engueuler dans le métro. Donc je vais lancer non pas 3 dés mais 2 dés.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Est-ce que c'est plus ou moins clair?
À peu près.
Voilà. Moi je vois tout. Enfin, ensuite, encore une fois, j'ai pas testé le système. Je pressens toutefois qu'il va y avoir un peu le syndrome du joueur qui provoque des jets de dés pour écouler sa dette de dés. Enfin, je me dis bon, il mériterait d'être testé ce système. Il est pas débile. Il est expliqué de manière peut-être un petit peu confuse dans le bouquin, donc faut bien relire. Je sais que c'est pas toujours très marrant de lire un système de jeu alors qu'on a une aventure palpitante, un thriller qui vous attend quelques pages plus loin. Mais voilà, il a le mérite d'être simple. En tout cas, je pense qu'il mérite d'être testé. Et si je fais jouer à Deadline, comme il en avait été question, ben, je pense que j'utiliserai le système, ne serait-ce que pour cela, pour le tester. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur le système de jeu. Juste pour conclure sur le système de jeu, en allant sur le site de John Doe, l'éditeur, vous trouverez un système un tout petit peu plus détaillé.
Je pense que je le mettrai en lien sur le site.
Formidable. Voilà, donc là j'ai fait la parenthèse sur le système de jeu. Je vais revenir un petit peu à l'aventure proprement dite. Enfin, aventure, c'est plutôt une campagne. Et quand je dis campagne, c'est un nombre quand même conséquent de scénarios. Bon, attention, hein, ce n'est qu'un livre de 112 pages. Les scénarios ne font que quelques pages. Enfin, plutôt les scènes, puisqu'en fait, en réalité, il y a 12 scénarios qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs scènes.
D'accord. Et la question qui me vient, c'est comment sont réparties justement ces scènes dans l'intervalle d'une quarantaine d'années, c'est ça qui sépare le début de l'aventure de l'apocalypse attendue?
Alors c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais en fait ça couvre à peu près toutes les époques, sachant que on sent une petite accélération sur la fin, hein, on va dire plus on s'approche de la fin, plus l'histoire s'accélère, hein, ça c'est un peu logique, mais non, globalement c'est assez bien réparti, voilà. Il y a plusieurs séquences historiques, mais je préfère pas trop, je vais pas entrer du tout dans le détail de la façon dont s'organisent les scénarios, sauf pour dire que je rejoins tout à fait ce que j'ai lu avant de venir donc sur le Grog.
Mm-hmm.
J'ai regardé vite fait les critiques des uns et des autres et je suis complètement d'accord avec eux. La campagne vraiment est très très linéaire. Du coup, c'est un petit peu entre guillemets l'effet parc d'attraction ou chemin de fer, on peut utiliser plein de métaphores, mais
on appelle ça un scénario toboggan.
Voilà, quoi que fassent les joueurs, on n'a pas vraiment l'impression que ça a beaucoup d'importance au final. Ils ont deux couloirs, A et B, ils arrivent toujours à l'endroit C. Hein. Le résultat final ne va pas...
Ah oui, il n'y a pas de... y a aucune prise en compte des actes des personnages quand même.
Très minime, très minime.
Très minime.
Très minime. Encore une fois, sans entrer dans le détail. Et c'est dommage parce que... du coup, en fait, pourquoi c'est dommage ? Parce que la campagne qui existe là, elle est parfaite, je pense, pour l'auteur qui a dû la faire jouer et qui a vraiment dû s'éclater avec ses scénarios, avec ce fil narratif. Mais on a tous des idées différentes de ce qu'est la vraisemblance, de la façon dont va évoluer le futur, la technologie, etc. Et parfois, en lisant le bouquin, on se dit, mais c'est un peu, c'est n'importe quoi ça, ou c'est pas logique, pourquoi il ferait ça et pas ça.
D'accord.
Alors que dans peut-être dans le groupe où ça a été testé au début, au contraire, ça devait être très logique.
Mm-hmm.
Du coup, je pense toujours que Deadline, c'est quelque chose que je conseille. En plus, bon, 23 euros, ça va, c'est agréable
là,
à lire.
A priori, il y en a pour un bon moment à jouer.
Oui, si on le fait jouer. Mais moi, si je le fais jouer, je ferai, enfin, alors, je dis attention, en revanche. Ce n'est pas du prêt à jouer pour moi.
Ouais.
Dans le sens où il faut quand même... encore une fois, chacun sa manière de jouer. Peut-être pour certains joueurs, comme l'auteur, ça ira comme sur des roulettes, ils pourront jouer tel quel.
Uh-huh.
Moi, j'aurais tendance à retravailler pas mal certains trucs.
D'accord.
Parfois, il y a des... Donc, à la fois pour des questions de vraisemblance.
Mm-hmm. Par exemple, t'as un exemple de ce qui te semblait pas.
On a tous des appréciations différentes. Hein. On est dans une période de mutation technologique. Donc, il y a des technologies. Je pense qu'il y a des choses à prendre, d'autres à laisser. Idem pour un petit peu les questions de société. Allez, un exemple, parce que là, je révèle rien de franchement extraordinaire, mais à peu près vers la fin, il y a une petite annexe avec le traité de New York du 15 septembre 2041.
D'accord.
Qui raconte, en fait, c'est la constitution, en gros, de la Fédération des États alliés. Alors, attention, c'est un spoiler un petit, hein, c'est vraiment le début de la campagne. En gros, les gens s'unissent, quoi, pour faire front, pour faire face aux problèmes. Et puis j'ai la franche impression que tout ça a été repompé sur la 5e constitution française avec septennat de 7 ans. Ils ont juste changé la
en
langue.
Même temps, un septennat de 5 ans, ça m'étonnerait quoi.
Et il a un point. Ils ont juste changé la langue en anglais plutôt que français. Mais enfin, voilà. Alors bon, c'est des trucs. En fait, comme c'est proche de nous tout ça. C'est un futur relativement proche. On a encore des tas de références, de repères communs et tout. Donc parfois, on va dire, mais non, c'est pas possible. Ensuite, on a tous vu des thrillers, etc. Donc on a tous la bonne solution sur la façon dont doit se conduire une scène en particulier, quoi.
D'accord.
Bref. Donc ça, c'est le côté plausibilité, vraisemblance. Et par ailleurs, si je fais jouer à la campagne, ce sera en vraiment l'adaptant au joueur à partir de la trame fournie, sachant que il faut trouver un moyen de laisser au joueur une certaine liberté ou au moins leur redonner l'illusion. Si jamais effectivement on fait jouer à Deadline tel quel, mais en vraiment leur donnant l'illusion que tous les choix sont les leurs, que tous les résultats correspondent à ces choix. Bingo. Maintenant, c'est pas si évident. Voilà.
D'accord. Et donc, bonne campagne, mais gros boulot pour le MJ.
Oui, c'est un point de vue personnel. Moi, ça me fait délirer le côté pré-apocalyptique, etc. Je trouve que, limite, j'aurais aimé la même chose, mais sans toute la campagne, juste avec une explication un petit peu des forces en présence, les objectifs de chacun, avec peut-être quand même les scènes les plus marquantes.
Oui.
Et puis peut-être aussi avec un chapitre où où l'auteur aurait mis plein d'options. On peut imaginer des tas de choses. Hein. Là, c'est le rayonnement, mais je sais pas si Google devient intelligent, enfin prend conscience, devient une intelligence artificielle et conquiert le monde, Skynet, j'en sais rien. Voilà quoi. Il y a C'est peut-être moi qui réfléchis trop, mais du coup, j'ai eu parfois du mal à apprécier le côté téléguidé de la campagne.
D'accord.
Mais à part ça, je trouve que le concept de base est génial. Et il y a de très bons moments dans la campagne, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Même au niveau des technologies qui sont proposées, j'ai trouvé que certaines choses étaient très malines et donnent envie de réfléchir à la façon de l'utiliser dans un scénario, ça c'est clair.
D'accord, ok, très bien.
Bon, en tout cas, un plaisir de la lecture et puis pas forcément de jeu, mais pourquoi pas avec un petit peu de travail. Et voilà.
Eh bien, merci Cyril. Eh bien, c'est à mon tour de te parler d'un jeu et moi j'ai choisi Final Frontier.
Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Radio-Realist. Its continuing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilization, to boldly go where no Frenchman has gone before.
Bravo. Mais merci Cyril pour cette magnifique introduction qui colle tout à fait avec le thème. Donc, je vais te présenter Final Frontier, qui est aussi un jeu de John Doe, qui coûte également 24 euros, c'est bien ça ?
23.
Celui-là est un peu plus cher.
C'est l'inflation.
Et donc, il s'agit d'un jeu de space opéra, c'est-à-dire du soap et de l'opéra, mélangeant donc à la fois le space opéra et les feuilletons soap avec les intrigues amoureuses à rallonge qui s'étendent sur des dizaines d'épisodes. Donc, c'est un jeu humoristique et également parodique sur Star Trek et plus généralement sur tous les feuilletons de ce genre, donc il peut y avoir du Cosmos 1999 ou également des trucs comme le... Je ne sais pas si tu avais déjà vu le film Galaxy Quest.
Je n'ai pas eu le...
Je te le recommande vivement.
Galaxy Quest.
Qui est aussi dans une veine un peu parodique. Donc l'univers, c'est celui d'une série télévisée de space opéra des années 70-80,
à base de pots de yaourt renversés, plaqués sur une pauvre imitation du sol lunaire.
Il y a un petit peu ça, tu sais, avec les plantes en plastique, les fausses lianes en papier crépon, etc. Donc on joue des personnages extrêmement caricaturaux et archétypaux. Donc il y a bien entendu le capitaine, le médecin-chef, le chef de la sécurité, donc tous les grands rôles typiques.
Avec ces agents de la sécurité qui portent des chemises rouges, non ?
Alors, en fait, il y a effectivement des red shirts. Étant donné que ce sont des figurants, ce sont ceux qui meurent par tour de bras. C'est-à-dire lorsque un coup de laser ou de rayon gamma ou de Dieu sait quoi frappe le vaisseau, les personnages ne sont que rarement frappés eux-mêmes, tu vois. Et évidemment, si quelque chose doit toucher le vaisseau, tu vas voir une gerbe d'étincelles, un peu de fumée faite par une boîte. Et deux, trois personnages habillés de t-shirts rouges qui volent en faisant bouah comme ça. Donc le côté parodique est vraiment très, très présent. Alors pour les races, il y a plein de choses amusantes. On peut donc évidemment jouer des êtres humains. Mais il y a également des gorichiens qui sont des espèces de... On va dire des espèces de gros wookies. C'est-à-dire... au niveau taille et fourrure, c'est un peu des Wookiees, mais en fait, ce sont des chiens qui ont l'air très gentils et pour lesquels on a une seule envie, c'est de leur gratouiller les oreilles. Il y a également...
Ils sont rémunérés en croquettes ?
Non.
Et en fait, c'est des chiens qui ont été génétiquement modifiés ou c'est...
Ah non, c'est réellement une race extraterrestre. Dans les autres races extraterrestres, il y a également des espèces de mantes religieuses. Il y a aussi des binariens, c'est-à-dire tu joues un personnage, mais en fait tu en joues deux. C'est-à-dire ce sont des petits êtres très sympathiques, mais simplement ils sont en binôme. Ce sont de parfaits jumeaux et qui communiquent par télépathie. Et en fait, lorsque tu joues ton personnage, tu en joues deux. Et donc, étant donné que chaque binarien termine la phrase de l'autre, tu peux commencer une phrase comme ça, Il a terminé comme ça.
Original, un peu comme nous finalement.
Oui, en fait, nous sommes des binariens qui faisons un podcast. En fait, nous sommes une seule personne et personne ne le sait. Donc, sinon, dans les autres races, il y a également les mégariens qui sont des êtres humains un peu avec un cerveau particulièrement proéminent, comme tu peux le voir sur cette illustration.
Ah oui, on se croirait dans un truc de Gottlieb là, ou quelque chose comme ça.
Où ils ressemblent un petit peu aux extraterrestres de Mars Attacks.
Alors, Mégarien, aucun rapport avec Capitaine Flamme.
Non, non, rien à voir avec Mégara et les gens de Mégara. Sinon, il y a également, on peut également incarner des Sylvéniennes, qui sont des femmes...
C'est des bonasses elfes à l'inspiration druidique.
En fait, ce sont des humanoïdes d'origine végétale qui se reproduisent par spores. Ah ah.
Donc dans Albator, ça s'appelait comment les
Sylvidres.
Les Sylvidres, voilà, c'est des Sylvidres.
Ouais, sauf que là, elles sont plus gentilles, en fait.
Bon, c'est la race de bonasses...
De l'espace, de l'univers. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc, sinon, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Sinon, pour les rôles, donc les capitaines, médecins, chefs de la sécurité, tout ça. Maintenant, passons un petit peu au système. Lorsque l'on crée son personnage, en fait, on a pour chaque type de personnage, on a un espèce de bagage de, à la fois de compétences, d'avantages, défauts qui correspondent à la fois au rôle du personnage dans l'équipage et à sa race, et également des compétences académiques qui correspondent à ce que le personnage a appris dans l'académie spatiale. Alors, le système lui-même se joue donc avec les fameuses compétences dont je viens de parler, auxquelles on ajoute un jet de 2d6 contre un seuil de difficulté, donc un truc plutôt simple. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a également une fiche pour le vaisseau spatial, et les personnages peuvent s'aider entre eux lorsqu'ils font des actions, c'est-à-dire tu peux dériver l'énergie des boucliers vers...
Pourquoi chaque personnage a donc la responsabilité d'un...
Oui, d'un poste en particulier.
À son nombre de points, un pool, une réserve qu'il peut distribuer à droite à gauche en fonction des...
Chaque poste a effectivement une compétence associée pour le vaisseau. Par exemple, le chef de la sécurité s'occupe de la console tactique. Le mécanicien effectivement s'occupe de la maintenance du vaisseau, donc de l'état du vaisseau lui-même. Et le pilote, c'est évidemment le pilotage. Et chacun, lorsqu'il fait ses jets, peut réussir ou échouer, ce qui va influer sur les scores des autres. Par le biais des dés qui sont affectés au vaisseau. Et parce que sur le vaisseau, on peut utiliser l'énergie de manière à la dériver sur l'un ou l'autre des postes concernés. Ainsi, lors du combat spatial, il n'y a pas un personnage qui joue et les autres qui s'ennuient. Tout le monde joue et c'est un vrai travail de groupe pour le coup. Donc, de ce point de vue, je trouve que c'est extrêmement bien rendu et on a vraiment l'impression de vivre une aventure de Star Trek. Également, pendant les combats, alors là, il y a pas mal de choses amusantes. Lorsque le vaisseau reçoit des tirs, il y a des effets physiques sur le vaisseau. Et il y a notamment le fait que lorsqu'un tir touche la passerelle, donc là où se trouve le personnage, tous les joueurs doivent remuer sur leur, sur leur fauteuil. comme dans la série où, évidemment, la caméra se contente de trembler, les personnages bougent un petit peu en se cognant contre les parois. Donc il y a plein de choses comme ça. Ah oui, il y a aussi autre chose dont je n'ai pas parlé. Tous les personnages ont un badge. Donc un vrai badge à découper et à se mettre sur la poitrine. Et en fait, lorsque l'on souhaite communiquer avec les autres membres d'équipage, on se frappe sur la poitrine à l'emplacement du badge afin d'utiliser le communicateur.
Ah, j'avoue, c'est pas mal aussi.
Donc il y a bien évidemment des red shirts, il y a plein de peuples bizarroïdes que l'on peut aller visiter.
D'extraterrestres avec des problèmes psychologiques.
Avec des sociétés très bizarres, etc. Aussi par rapport au contexte de l'univers, c'est vraiment celui de Star Trek dans le sens où c'est un monde où la Terre a résolu tous ses problèmes grâce à la découverte d'une sorte de réplicateur qui permet de dupliquer à l'infini à peu près n'importe quelle matière. Donc, plus de faim dans le monde, plus de problèmes énergétiques, tout ça s'est résolu. Et donc ils ont créé une grande assemblée galactique à laquelle adhèrent les peuples qui forment l'équipage du vaisseau. Et ils doivent intervenir sur les planètes qui sont en danger, qui sont attaquées, etc. Celles qui n'ont pas découvert le voyage spatial et qui ne connaissent pas l'existence de l'AMU, qui est donc cette espèce d'union
D'accord.
galactique.
Donc il y a une prime directive aussi, enfin
C'est-à-dire?
une règle empêchant d'interagir avec les civilisations
Oui, voilà.
pré-spatiales.
Ouais, voilà. Ou en tout cas, de ne pas leur montrer de technologies qu'ils ne connaissent pas. Et il y a bien évidemment des grands méchants qui s'appellent les Organiens, qui sont des méchants à la peau bleue et aux yeux rouges, comme on peut le voir sur la couverture. Donc pour jouer dans cet univers, il y a un bon gros scénario qui est fourni à la fin, mais il y a également toute une campagne de 22 épisodes qui est fournie. Évidemment, tous ne sont pas développés, mais il y a vraiment de quoi faire toute une saison d'une série télé dans cet univers, avec un fil rouge qui va traverser qui va constituer un arc de scénario. Des méchants récurrents, des personnages sympas, etc., etc. Donc, voilà, c'est un jeu qui est à la fois drôle, qui reste quand même du vrai space opéra, mais qui permet de développer des personnages sur le long terme. C'est plutôt fait pour des parties assez courtes, genre 2-3 heures, quelque chose comme ça. Donc pour nous autres trentenaires pressés et n'ayant pas beaucoup de temps, c'est plutôt sympa. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé. Là, je vais le faire jouer prochainement avec des gens qui sont pas vraiment rôlistes, mais qui sont pas contre ça, tu vois.
Mais qui connaissent un peu Star Trek, les
Voilà,
codes, on va dire.
qui connaissent les poncifs du space opéra et de ce type de série. Et un jeu un peu drôle, un peu décalé, voilà, c'est exactement le public pour ça. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ok, ça donne envie. Est-ce que tu penses qu'on pourra faire un crossover avec les Vikings de l'espace du Pernieu Dent?
En fait, ouais, j'y ai repensé en le relisant pour préparer l'émission.
Stardrakkar, hein,
Ouais,
c'est le nom
oui,
du jeu, qui est disponible sur Internet.
oui. Ouais. C'est pas impossible, même si, même si l'extrême violence des Vikings de l'espace ne sera peut-être pas complètement compatible avec le côté peace des agents de l'AMU, enfin des rangers de l'espace pour être précis. Je pense qu'il y aurait moyen de faire un crossover plutôt rigolo. Oui. Mais je me demande d'ailleurs si ça n'a pas déjà été fait dans une convention au moment où Eric sortait Stardrakkar. C'est pas impossible, je sais plus.
D'accord. Star Trek, pour moi, c'est vraiment une série qui nous vient tout droit de l'âge d'or de la science-fiction, à une époque où on pensait la science-fiction en termes positifs, humanistes,
Oui,
voilà.
complètement.
Et donc,
Oui.
même si c'est une parodie, on retrouve un peu cette idée.
Tout à fait, tout à fait. C'est une parodie, mais c'est pas hyper caricatural. Ça en reprend quand même les codes, dont celui-ci, c'est-à-dire cette vision d'un futur où tout est mieux que maintenant. Et de ce point de vue, c'est très réjouissant en fait.
C'est un futur où la deadline a pu être évitée et où les choses ont bien tourné.
Exactement. Donc voilà, si vous souhaitez, si vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous aimez les jeux qui sont un petit peu amusants, que vous n'avez rien contre le space opéra, eh bien je vous recommande très vivement Final Frontier. Et maintenant, ça va être à toi, Cyril. Alors, de quoi vas-tu nous parler déjà ?
Alors, je vais vous parler de vampires.
Ah, vampires.
Alors, vampires. Je vais vous parler de vampires à la mascarade. Il faut savoir qu'il y a plusieurs éditions de vampires, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce jeu. Il y a Vampire la Mascarade, qui est le jeu qui a lancé un petit peu tout l'univers du monde des ténèbres en 1991. Donc ça fait 20 ans.
Et, il ne rajeunit pas tout ça.
Voilà. Et il y a Vampire le Requiem, donc qui lui est plus récent, qui date de 2005, si ma mémoire est bonne, et qui a fait des choix différents. Donc dans Vampire, vous jouez, je vais pas vous surprendre beaucoup, mais quelqu'un qui est mordu par un vampire et qui est transformé en vampire, et vous êtes confronté à votre bête intérieure, le besoin de vous nourrir de sang humain, et les contraintes d'une société archaïque, figée, de vampires qui parasitent notre société humaine. Donc c'était il y a 20 ans, Vampire la Mascarade. Et White Wolf, l'éditeur de Vampire, a eu l'excellente idée de se lancer en fait dans la conception et l'édition d'une édition anniversaire de Vampire, donc qui va s'appeler Vampire 20e anniversaire, Vampire la Mascarade 20e anniversaire. Alors, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'ils ont choisi de rééditer Vampire la Mascarade et pas leur édition la plus récente, Vampire le Requiem, qui pourtant a vraiment énormément de qualité. C'est une édition qui est plus soignée en termes de production, qui bénéficie de beaucoup plus d'un système un peu plus raffiné par rapport au précédent, avec un petit peu toute l'expérience accumulée en 15 ans. En 2005, ils ont sorti une édition qui aurait pu être l'édition ultime, peut-être.
C'est pour les fans, donc.
Je vais pas mentir. Je pense que c'est plutôt pour les fans, et je pense que paradoxalement, le nombre de fans de Vampire la Mascarade, l'ancienne édition, est peut-être plus grande que celle du nombre de fans de Vampire le Requiem, qui est pourtant l'édition la plus récente. Tout simplement parce que Vampire la Mascarade, c'était le jeu qui a explosé au début des années 90.
Qui a un peu révolutionné le jeu de rôle de l'époque.
Tout à fait. À une époque où le jeu de rôle sur table avait encore beaucoup de pratiquants, mine de rien.
Mmh.
En 2005, c'était quand même les MMO triomphaient déjà, World of Warcraft venait d'arriver, ce genre de choses. Donc celui qui était rôliste 15 ans auparavant avait plus tendance à jouer à autre chose. Donc il y a plus de gens, je pense, qui ont joué à Vampire la Mascarade qu'à Vampire le Requiem. C'est d'ailleurs intéressant parce que, justement, White Wolf prépare un MMO, un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, consacré à Vampire. Et ils ont annoncé l'année dernière que ce MMO allait prendre pour cadre, pour contexte, non pas leur édition la plus récente, plus raffinée, mais leur édition la plus ancienne, Vampire la Mascarade.
Il va y avoir un MMO sur Vampire ?
Alors oui, je pensais que tu savais, mais je te l'annonce. Il y aura un MMO sur...
Dis-moi si je me trompe, mais White Wolf, il a bien été racheté par les gens de EVE Online,
En 2006, CCP, l'éditeur du MMO EVE Online, MMO de science-fiction, a fusionné avec White Wolf. En gros, White Wolf est devenu la branche nord-américaine de CCP, qui est à la base un éditeur islandais. Et depuis cette époque, donc 2006, ça commence à bien faire, il prépare un MMO qui devient maintenant quand même relativement proche. Alors, pas pour cette année, mais déjà, je pense pour l'année prochaine, nous pourrons commencer à explorer ce monde. Enfin, je l'espère, je croise les doigts. Au moins en bêta, et qui sait, peut-être avec une sortie commerciale, mais là je préfère ne pas trop m'avancer.
Tu risques d'y céder.
Étant à la fois un fan de 20 ans de Vampire et un joueur acharné d'EVE Online, je pressens que je risque malheureusement de d'y céder, oui. Donc, pourquoi je vous parlais du MMO ? Pourquoi je faisais ce détour par le MMO ? Pour rappeler donc que c'est l'univers de la mascarade qui a été choisi. C'est pas l'univers de Requiem. Requiem, l'édition récente de Vampire, c'est une boîte à outils. Ça se présente comme un jeu sur les vampires qu'il convient à vous, maître de jeu, conteur, de mettre à votre sauce. Il présente aussi un monde avec ses sociétés, sa société, ses codes, ses clans, etc. Mais un monde différent, même si on retrouve certains éléments, un monde différent de celui de la mascarade. Pourtant, donc, ce monde a rencontré moins de succès, en dépit de l'audace, quelque part, de cette remise à neuf, à niveau, ce reset, comme on pourrait dire, si on pense aux comics, aux innombrables comics qui écartent un historique trop chargé et reprennent à zéro les bonnes bases de leur succès. Ce qui a fait le succès de la mascarade, ce n'est pas en fait son système de jeu, je pense. Ce n'est pas forcément la qualité de sa production ou quoi que ce soit, mais c'est l'expérience collective vécue, et c'est ça qu'a retenu le CCP. C'est le fait que c'est ça qui a marqué une génération. Et je vais justement maintenant parler un peu plus de concrètement ce qui va se passer avec cette 20e anniversaire. Donc un livre va paraître, je ne sais pas quand, je ne sais pas s'il y aura une version française, je l'espère, hein, on peut toujours rêver.
Parce que j'ai l'impression qu'en français, Vampire a l'air d'être un peu mort, non ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, on peut faire une petite parenthèse pour dire que Vampire n'a pas eu, objectivement, de la chance, en fait, en tombant en étant traduit par l'éditeur qui l'a traduit, puisqu'il n'y a pas eu de suivi des gammes. Alors, peut-être que l'éditeur n'avait pas les moyens financiers, peut-être qu'il y avait d'autres raisons qui ont expliqué... Le manque de succès de Vampire. Je pense que le jeu avait tout pour réussir en France. Il y a peut-être des choix de traduction qui ont été malheureux. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est, quelque part, c'est un échec éditorial, la traduction de Vampire en français. Ça a eu quand même un certain succès, il ne faut pas exagérer.
Ah non, mais Vampire Mascarade, oui, mais Vampire Requiem.
Effectivement. Mais même Vampire Mascarade, je pense, aurait pu avoir un meilleur succès avec un... Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est aussi une histoire de...
De gros sous.
De gros sous et d'amour. Il faut qu'il y ait une certaine intelligence dans les traductions. Enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de raison pour qu'une version française de Vampire, la Mascarade, le 20e anniversaire, ne marche pas.
Oui.
Maintenant, c'est juste une question de proportionner, effectivement, l'effort fourni, les ressources consenties aux gains attendus. C'est-à-dire, faut pas se tromper sur le tirage, ce genre de choses. Alors, donc, il va y avoir un livre. Et CCP, par l'intermédiaire de ses employés, donc CCP White Wolf, par l'intermédiaire de ses employés qui travaillent sur Vampire, a mis en place un système en fait, pour que le processus de développement soit accessible aux joueurs, dans le sens où déjà il y a une présence sur Twitter, hein, il y a un hashtag, comme on dit, V20, qui permet de voir un petit peu... les déclarations des uns et des autres. Vous avez par exemple Justin Achille qui est qui est un développeur pour le MMO maintenant, mais qui a longtemps été le développeur de Vampire. Il y a aussi Eddie Webb il y a beaucoup de développeurs de CCP qui s'expriment, et il y a sur les forums White Wolf une section qui est consacrée à cet ouvrage en préparation, et il y a un blog de développement qui encourage en fait le feedback des joueurs, et ça c'est assez important. C'est une démarche ouverte, collaborative. Il y a une recherche de feedback. Il y a l'idée que le jeu appartient aux joueurs.
D'accord.
Ils veulent faire quelque part, c'est un... Alors, ils le présentent comme un remerciement aux joueurs de Vampire. Cet ouvrage. Qu'ils qualifient de loyaux, d'enthousiastes. Et le comment dire, White Wolf fait passer l'idée que les créateurs, les auteurs sont aussi et avant tout des joueurs qui aiment ce jeu.
D'accord.
Donc ça c'est le c'est la base. C'est vrai que ce monde, voilà, 20 ans après, a toujours ses fans. En France, par exemple, je pense qu'il y a, enfin, bon, moi je fais jouer actuellement au monde des ténèbres, au monde des ténèbres 1, 2, 3. Donc, c'est toujours actif quelque part dans ma vie. Je sais qu'il y a d'autres joueurs qui pratiquent régulièrement à Vampire, à Mage, à d'autres jeux du monde des ténèbres. Je fais une petite parenthèse pour dire que l'association Ténébrae organise régulièrement d'ailleurs des soirées, des nuits même entières de jeux consacrés au monde des ténèbres. La prochaine est le samedi 23 avril à Villejuif.
Mm-hmm. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Il me semble qu'il existait un podcast spécial Vampire. Et alors, je ne sais pas s'ils ont continué parce que moi, c'est un jeu qui ne m'intéresse pas. Mais voilà, ils avaient fait des choses assez intéressantes.
Alors, j'avoue que je ne sais pas non plus. Ça me dit vaguement quelque chose.
Je te montrerai.
J'ai peut-être essayé de me documenter à l'époque, mais là, je ne suis pas sûr. Ok, bon, à part ça, White Wolf veut mettre en avant le fait que, en fait, ce qu'il cherche à faire de ce livre, c'est une expérience de vampire classique.
Oui.
Dans le sens, ils n'essaient pas de se lancer dans une nouvelle expérience. Ils essayent de retrouver les sensations extraordinaires qu'on pouvait avoir. Alors, Justin Achille mentionne le...
Alors, qui est cette personne ?
Alors, Justin Achille, ça a été, durant très longtemps, le développeur de la gamme Vampire.
D'accord, voilà. Ok.
Et donc, actuellement, il travaille sur le MMO.
voilà. D'accord.
Donc, il mentionne, en fait, les fantasmes de conspiration secrète, le fait de regarder par-dessus son épaule, l'idée d'être... En fait, ce livre, à l'époque où il était sorti... hantait ses lecteurs quelque part, mmh. et qu'il y avait une sorte d'histoire d'amour avec cet univers très particulier, dans le sens où, à l'époque où c'est sorti, je ne sais pas si c'était le premier jeu, mais effectivement, ça a fait une petite révolution, pas forcément par le thème, mais parce que, d'une part, on ne jouait pas les gentils, pour une fois, on jouait les méchants, mais on ne jouait pas forcément c'était pas noir et blanc non plus, c'était on jouait des personnes avec une condition particulière, une condition horrible, et qui essayait de garder,
son humanité.
Humanité. C'était quand même vachement plus profond que vous êtes dans une auberge et soudain un vieux type aux cheveux blancs s'approche de vous.
Avec une robe noire et une capuche.
Et puis il y avait cette idée, en fait, c'était un bouquin assez psychologique quelque part. Ça parlait de l'évolution physique et mentale, brutale de personnes, donc c'est la transformation en vampire, hein, qui se retrouvaient dans une société qu'ils ne comprenaient pas. Et en fait, devenir un vampire, on pouvait aussi l'assimiler à cette phase que nous avons tous connue, l'adolescence. Et justement, oui. C'est tombé en
le corps change, tout ça.
Exactement, mais c'est con, mais c'est tombé à peu près au même moment.
Ouais.
Et donc forcément, un bouquin comme ça marque ceux qui sont adolescents, qui vivent une phase de changement à cette époque. Bon, je ne vais pas ramener tout ça à de la base psychologie. Hein. On était très contents de jouer des vampires,
des gros brutos,
des gros brutos qui voilà qui se tapaient des bref.
Matt Monospex.
voilà, l'expérience classique de vampire, ça c'est quelque chose qu'ils mettent en avant. Ils mettent en avant le fait que ce sera un jeu où il y aura la société vampirique, la société à la fois la haute société avec ces espèces de masques. Bon, Vampire la mascarade, c'est une société extraordinaire. Déjà, la mascarade, ça fait penser à Venise. La société principale, l'organisation principale qui régente la vie des vampires s'appelle la Camarilla. C'est superbe comme nom. Ça veut dire une petite chambre. C'est là où se réunissaient les conspirateurs florentins avant d'aller assassiner quelqu'un avec du poison.
Ah tiens, je ne connaissais pas l'origine du terme.
Bon, je ne suis pas spécialiste de l'histoire florentine, mais en gros, ça vient de
ça
l'italien.
Vient de ça,
oui, ça vient de ça. Et donc, il y a une espèce de... Voilà, on a l'image du vampire en costard-cravate, ou magnifique. Avec,
ouais. Voilà. Mmh.
Et en même temps, C'est aussi une société avec ses côtés très sombres, très trash, très rue, très banlieue, projet.
Ruelle sombre.
Ruelle sombre. Donc on pense au punk, etc.
Oui. Ouais,
et justement, ça. Je vais y revenir sur l'histoire du punk. Parce que l'autre point, le dernier point que met en avant l'équipe de White Wolf sur ce que va être ce bouquin, qui n'est pas encore sorti, hein, je le rappelle, c'est que ce bouquin va reprendre le Zeitgeist de Vampire, du Vampire initial. Zeitgeist, l'esprit du temps.
Zeitgeist.
Hein. Zeitgeist, ach ja. Donc voilà, c'est de l'allemand, hein, ça vient de Hegel, je crois. Ou un truc du style, par opposition au Weltgeist, qui est l'esprit fondamental de l'humanité, quelque chose comme ça. Et donc le Zeitgeist, l'esprit du temps, ça veut dire, c'est un petit peu ce qui caractérise, qui marque une époque, ce qui fait l'esprit du temps.
D'accord.
Voilà, l'esprit de notre temps, ça va être, je sais pas, Facebook, quelque chose comme ça, c'est ce qui marque notre époque.
Ok.
L'époque du début des années 90. C'était Nirvana,
ouais.
Et on sortait encore des années 80, c'était même plus que ça, l'héritage punk, c'était tout ce qui a fait de Vampire ce phénomène, c'est parce qu'il il collait vraiment quelque part à l'actualité, il y avait... c'était le contraste en fait entre un monde dirigé par des youpies, oui. Et tout en bas de la chaîne, des jeunes qui se cherchaient désespérément un avenir, une solution.
En travaillant au McDo.
Exactement. Alors, ce qui avait fait le succès aussi du jeu, c'était vraiment donc, la façon dont il avait collé au Zeitgeist, mais par sa production, par ses illustrations, etc. Ça avait commencé, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais par sa couverture, la rose sur le marbre.
Oui, 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 tout à fait, oui.
Qui là aussi était magnifique, ouais. Qui tranchait avec ce qu'on trouvait habituellement.
Uh-huh.
Et qui était toute simple. Initialement, je crois qu'ils avaient réalisé, il me semble, si je me souviens bien ce que j'avais vu quelque part, White Wolf avait réalisé, je crois, une illustration pour la couverture. Mais ils ont trouvé mieux. Je crois que c'était Chris McDonough, qui était un de leurs auteurs, qui avait trouvé cette idée donc, de prendre une plaque de marbre, d'y poser une rose et puis juste de photographier. Et ça rendait super bien. Voilà. Bon, la rose, l'amour, hein, thème du vampire par excellence. Et puis le marbre.
Une espèce de forme de romantisme.
Oui.
Et sur le marbre, donc la mort, la froideur, la brutalité.
Et c'est toujours cette tension, ce contraste qui traversait le bouquin, qui en faisait un bouquin qui vous prenait aux tripes quelque part. Alors, en plus, ils avaient des illustrations très marquantes. Ils ont toute une lignée d'artistes prestigieux a fait ses armes en fait dans, oui, la gamme vampire. Mm-hmm. Je sais pas moi, il y avait Bolton.
Oui.
Christopher Shay, je pense que on en connaît tous, mais les noms me viennent pas forcément en tête. Il y avait Joshua Timbrook qui là j'ai ramené des vieux bouquins de vampires. Il a fait de belles illustrations aussi. Il y avait Guy Davis par exemple qui a fait, alors, c'est peut-être plus tardif, mais qui a fait Le Marquis. Bah, voilà, il a bossé là-dessus.
D'accord.
Ils ont vraiment beaucoup d'artistes qui se sont fait la main
sur cette gamme de vampires.
Sur cette gamme, et il y a de très très belles illustrations avec des vampires dans cette gamme.
D'accord.
Et puis à l'époque de Vampire la Mascarade, la première édition, même s'ils ont mis la pédale après quelques années parce que bon, ils avaient un peu abusé du gadget, bah, en gros à chaque nouveau chapitre, à chaque toutes les trois pages, il y avait une citation.
Oui.
C'était une citation de chanson ou de poème ou, ouais, quelque chose d'autre, ou de film, et ça vous posait une atmosphère,
ouais.
Et on se sentait vraiment dans l'esprit, ouais, du dans temps l'esprit, effectivement, ouais.
Ça a été beaucoup repris par la suite dans divers univers d'ailleurs.
Oui. Alors, juste pour revenir un petit peu sur la 20e édition,
oui,
l'édition du 20e anniversaire.
Oui.
le système de jeu qui va être repris va aussi être l'ancien. Donc ça m'a un peu surpris. Bon, moi, j'apprécie beaucoup le nouveau parce que j'ai énormément pratiqué l'ancien, un peu moins le nouveau par la force des choses, mais je trouve que le nouveau demande de jeter moins de dés et quelque part plus agréable à manipuler. Et l'ancien est plus gros bill, mais en fait, c'est ça qui est mis en avant. C'est aussi retrouver le feeling... le feeling un petit peu de l'ancienne
version.
L'ancienne version où il y avait quand même... voilà, parfois, on jetait des tombereaux de dés. Et c'était un peu plus high-powered. Quoi. Enfin,
ouais.
C'était un peu plus... on avait vraiment la possibilité d'avoir des personnages très, très puissants à la fin. Alors, juste pour continuer, sur j'avais mentionné dans le côté Zeitgeist... Le fait que c'était ça collait un petit peu au mouvement gothic punk, enfin
ouais.
C'est eux qui ont créé le gothic punk, c'est eux qui ont associé ces deux mots d'ailleurs,
oui.
C'est un petit peu comme le marbre, à chaque fois ils associent deux éléments ils font un mariage réussi,
oui.
Le gothique, on pense aux gargouilles de Notre-Dame, le punk on pense à nos futurs.
Oui, oui, oui. On pense aux Londoniens à Crète qui traînaient dans des quartiers, qui se droguaient, et voilà.
Voilà. Alors, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, mine de rien,
oui.
Mais j'en fais pas du tout une généralité, c'était aussi pour moi, à titre personnel, Vampire la Mascarade, une sorte de participation par procuration à cette génération, justement, à Crète. Je porte pas la Crète.
Mm-hmm.
Je vais pas dans des balles.
Je suis pas sûr que ça taille très bien, la Crète.
J'ai pas assez de cheveux, peut-être.
Si, t'en as plein par rapport à moi.
Oui, bah, j'ai pas beaucoup de... pas besoin de faire beaucoup d'efforts, si je puis me permettre. voilà, donc, quelque part, ce bouquin, c'est aussi un retour vers notre jeunesse, quoi, vers une génération dont nous sommes sortis ou que nous avons côtoyé.
D'accord.
Alors, juste, je vais continuer un petit peu sur le côté mascarade contre Requiem. Donc, la nouvelle version de Vampire, Requiem a eu moins de succès. Pourquoi pour quelle raison? Donc, je pense qu'il y a cette raison sentimentale, il y a cette raison démographique, il y avait moins de rôlistes sur le marché peut-être.
Oui.
Il y a cette raison sentimentale, le premier amour n'a pas forcément le même charme s'il change de nom, s'il s'habille autrement. Et, voilà. Donc,
d'accord.
On ne peut pas retrouver les sensations qu'on a eues, ouais, à ce moment vraiment de notre histoire. Et on s'attache, je pense, à des personnages qui ont fait la force de cet univers.
C'est les PNJ fameux.
Les PNJ fameux, et puis leur évolution, parce que ça a fait, en fait... enfin, une des grandes différences entre la mascarade et Requiem, c'est l'existence de la mascarade d'une sorte d'intrigue parcourant la gamme.
La métaplot.
Le fameux métaplot, avec des personnages récurrents, avec une espèce de... C'est quand même un jeu à secret, quelque part. On se pose des questions, même si je pense qu'une partie du plaisir à la fois du joueur et du lecteur était de découvrir l'évolution du monde, la révélation de certains secrets au fur et à mesure que la gamme se déclinait.
D'accord, ok.
Alors... Par exemple, je vais juste prendre un exemple. Là, j'ai apporté quelques bouquins dans ma bibliothèque, les bouquins de White Wolf trônent en première place. Et donc, j'en ai vraiment beaucoup. Et je me suis dit, mais alors, si ce bouquin paraît, qu'est-ce que je vais... imaginons que je l'achète, ok, je veux y jouer. Et quels sont les bouquins que je prends avec pour y jouer? Et en fait, je me suis retrouvé à prendre des bouquins très anciens qui sont sortis tout au début de la gamme, pas forcément les bouquins qui sont sortis 2-3 ans après.
Oui.
Mais on a eu des bouquins qui ont justement posé l'idée d'une intrigue extraordinaire, d'une conspiration.
Oui. Uh-huh.
Alors, bon, il y a eu Chicago by Night, par exemple. C'est le premier guide de... Le
premier source book consacré à une ville.
Voilà, le premier city book.
City book, ouais, voilà.
Décrivant la ville de Chicago, uh-huh, avec ses... ces intrigues à plusieurs niveaux, oui. Ces gens qui sont manipulés et qui en manipulent d'autres. Mmh.
Son prince, ses suivants.
Voilà, exactement.
Ces lieux emblématiques.
Ouais, le fameux Succubus Club.
Ah oui, mais moi j'en ai entendu parler alors que j'y ai jamais joué.
Le Succubus Club, c'est le night club qui sert un petit peu de repère à toute la faune mort-vivante de Chicago, ou qui servait à l'époque. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris le sabbat, le guide du joueur du sabbat. Donc ça, c'est un des bouquins de Steve Cibron qui est ensuite parti pour faire son propre jeu. Je ne me rappelle plus du nom, mais un gars avec une imagination extraordinaire, parce que il a pris Vampyr et il a fait quasiment un autre jeu avec, puisque dans Vampyr, le livre de base, on joue des gens, des vampires qui sont un petit peu dans l'organisation générale de la société vampirique qui s'appelle la Camarilla, mais il y a une autre organisation qui s'appelle le Sabbat.
Oui, qui sont hors Camarilla, avec des règles différentes de société.
Oui, et eux, c'est des furieux, ils sont très violents. Mais il y a une histoire derrière tout ça, il y a une explication, et même leurs actes inhumains ont une explication.
Ils ont un sens.
Et ça, c'était vraiment fascinant à lire, à découvrir et à jouer aussi. Un petit peu moins à jouer quand même, parce que c'est toujours plus difficile de pas sombrer dans le parodique quand on a cette espèce de manque de scrupules qu'on peut avoir dans le sabbat. Et alors un autre,
ça me fait vraiment penser à la BD Les Irrécupérables,
dans Cajibelli,
oui voilà c'est ça,
oui effectivement, oui. C'est effectivement des joueurs de jeux de rôle. Un autre bouquin vite fait qui m'avait frappé, que j'ai vite fait pris dans ma bibliothèque, c'est Dirty Secrets of the Black Hand, les sales secrets de la main noire. Et là encore, c'est comme le sabbat. Le sabbat, on le lit, on se dit mais c'était ça en fait le sabbat. Ah ça alors, et la perspective est renversée.
Oui.
Et c'est rebelote avec Dirty Secrets of the Black Hand, qui est en fait une organisation interne au sabbat.
D'accord, c'est un secret dans le secret finalement.
Oui, et c'est absolument fascinant à lire. Donc là encore, ça vous ouvre l'esprit, ça vous fait fantasmer, rêver, et en même temps on peut jouer avec, c'est très marrant. Et puis le dernier bouquin dont je voudrais vous parler, qui
est très joli, qui a une très belle couverture.
Ouais. Il y en a d'autres, c'est une sélection que j'ai faite vite fait, mais il y a tellement de bons bouquins, il y a beaucoup de rejets, on va dire, dans cette gamme, parce qu'ils ont fait sorti vraiment beaucoup de bouquins, statistiquement c'était difficile de faire du 5 sur 5. Mais ils ont aussi sorti de très très bons bouquins. Donc là, c'est juste une petite sélection. Et là, c'est un bouquin de background. C'est un bouquin de. En fait, c'est la sorte des. C'est la Bible des vampires. C'est le Book of Nod. Nod, dans la Genèse, c'est l'endroit où vont Adam et Ève après être chassés d'Éden, le paradis. Et l'histoire reprend après ça et t'explique comment leur fils Caïn. Va devenir le méchant vampire qu'il est devenu.
Le tout premier vampire.
Oui, alors voilà, Caïn dans Vampire, c'est le progéniteur, l'ancêtre de tous les vampires. Et le bouquin est absolument fascinant. Et ce qui était fascinant aussi, c'est qu'on retrouve dans ce bouquin, qui est censé avoir été écrit par un archéologue vampire, on retrouve tous les éléments qu'on retrouve dans la gamme. On retrouve des prédictions, par exemple, un peu énigmatiques qu'on voit se réaliser dans la gamme. Exemple, la prédiction du retour d'une entité sombre et horrible dans les forêts du Nord. Et en fait, c'est Baba Yaga, une ancienne Nosferatu qui se réveille en Russie et qui des trucs comme ça. Et voilà. Donc,
et c'est uniquement du background pour le coup.
Alors, oui, Book of Notes, c'est uniquement du background. Il y a juste une page pour faire style. On peut pas se tromper, ça reste un bouquin de jeu, mais il n'y a pas du tout de caractéristiques ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de mécanique de jeu à l'intérieur, c'est beaucoup.
Quoi
de...
Il n'y a pas les caracs de Caïn dedans.
Il n'y a pas des caracs de Caïn, de Lilith et de tous leurs copains. Voilà, donc ça c'est une gamme absolument mythique et je serais heureux de ressortir ces bouquins pour une bonne partie de jeu ou un peu plus si affinité, une fois que ce bouquin de 20e anniversaire de Vampire, La Mascarade, sera sorti. Avant de finir, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui, je pense, a fait le succès de La Mascarade aussi contre Requiem. Dans Requiem, il n'y a pas l'idée de la GN. Ou alors, si elle y est, elle n'est pas du tout prégnante, elle s'impose pas, quoi. Dans La Mascarade, c'est vraiment une épée de Damoclès.
Oui.
La GN, c'est le réveil des anciens vampires qui vont dévorer les personnages joueurs et voilà,
okay.
Et toute la société vampirique.
Donc, et d'ailleurs, ça a eu lieu dans la gamme. Enfin, ils ont sorti quelque chose là-dessus.
Alors, en fait, ils ont conclu leur gamme avec le bouquin GN.
D'accord.
Voilà.
Dans lequel ils détruisent leur univers.
Dans lequel ils détruisent leur univers. Et ils ont proposé plusieurs scénarios pour voilà, en fonction de.
Ouais.
Ils n'ont pas proposé une solution. Ils ont dit bon, vous faites comme vous voulez et voici les éléments qu'on vous fournit. C'est un point de vue discutable. Les bouquins sont agréables à lire. J'ai pas fait jouer. Il y a eu plusieurs bouquins parce qu'il y en a eu un pour en gros hein, chaque gamme du monde des ténèbres. Il y en a eu
d'accord.
Un sur
un pour loup-garou,
un pour mage et un pour le reste en gros. Et il y a eu aussi la gamme Vreth, la gamme
ouais.
Des fantômes qui avait
mm-hmm.
eu un bouquin un peu similaire avant
oui.
Qui s'appelait Ends of Time et qui est un des meilleurs aussi.
Ah oui
ouais, qui est vraiment,
il est vraiment bien.
Ah oui, qui est vraiment excellent. Qui était vraiment excellent. Mais la gamme Vreth avait vraiment de très très bons bouquins. Et donc, il y a cette GN dans La Mascarade. Donc, bon, je ne sais pas si elle sera dans le MMO, mais elle sera. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas dans l'édition du 20e anniversaire. Et donc, peut-être quelque part, ce qui fait aussi la force de Vampire la Mascarade par rapport à Vampire le Requiem, voire par rapport à d'autres jeux, c'est cette idée qu'il y a une deadline, qu'il y a,
oui.
Un millénarisme ambiant avec des sectes de la fin du monde, une apocalypse à la fin, la GN, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en jeu de rôle, l'idée d'un futur est déplaisante? Qu'il faut qu'il y ait nos futurs? Est-ce que seul compte le présent dans lequel vivent les personnages joueurs? Bon, je ne sais pas, c'est en tout cas intéressant à explorer, parce que mine de rien, l'univers de Deadline et l'univers de Vampire la Mascarade ont au moins ceci en commun,
oui.
C'est que l'horloge
voilà.
Tic, le temps est compté, et peut-être qu'on vit plus lorsqu'on sait que nos jours sont comptés, je ne sais pas.
D'accord.
Alors, juste pour conclure, quelle était belle notre jeunesse quand il n'y avait pas de futur.
Oh, c'est beau. Merci Cyril. Juste un truc. Si cette édition, par exemple, sortait en français, la question que je me pose, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Vampire comme moi, est-ce que ce serait jouable? Parce que a priori,
oui.
Ils n'ont pas prévu d'extension, ils n'ont pas prévu de rejouer la gamme.
Non, je ne pense pas. Je me suis dit, j'en sais rien, mais non.
Parce
J'en sais rien, à vrai dire. J'en
okay.
sais rien. Je ne veux pas dire de conneries. Je n'en sais rien. Peut-être
oui.
qu'ils se sont d'ailleurs exprimés à ce sujet sur un forum que je n'ai pas vu. Je ne suis pas non plus tout
omniscient.
Le temps là-dessus. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils auront en tête quand même une certaine. La simplicité, on va dire, ils vont refaire vraiment un livre de base. Voilà.
D'accord. Okay.
Et d'ailleurs, on peut voir des extraits déjà de ce livre de base, ou en tout cas du brouillon. On peut voir des extraits du brouillon sur le web, sur,
ouais.
sur le site que j'ai mentionné. Donc, il suffit de taper White Wolf, d'aller dans les forums et de retrouver la section Vampire 20e anniversaire, ou alors il y a un blog de développement, je n'ai pas l'URL en tête, mais bon, ça doit pouvoir se trouver facilement, ou le hashtag V20 pour retrouver
ça sur Twitter.
Les informations, mais on peut voir donc des extraits un petit peu des premiers jets,
uh-huh.
Voilà, ce qui permet de donner une idée, et puis on peut voir les discussions des joueurs aussi, donc
en direct.
Voilà.
D'accord, ok.
Alors, est-ce que ce sera facile à jouer pour est-ce que ce sera vraiment complet tout en un etc.
Oui.
Je réserve mon jugement. On verra bien tout simplement uh-huh. lorsque ça.
Et voir ce que ça donne. Voilà. Bah ce sera l'occasion de faire une critique en vrai du bouquin. Voilà.
Ouais. Bon, juste pour conclure, peut-être juste une dernière chose. Ce qui est sympathique dans ce dans cette nouvelle édition, c'est pas tant le contenu lui-même, parce que bon, faut être franc, c'est pas tout neuf tout ça. Enfin, ils vont pas réinventer la roue, ils
Oui.
refont juste quelque chose.
Mmh.
Mais c'est la démarche, bon, à la fois vers la communauté, on va dire, mais aussi en disant, bah, si vous avez des remarques à faire, dites-le nous parce qu'on le fait pour vous, ce bouquin.
D'accord, ok.
Parce que dans leur tête, quelque part, c'est un héritage commun.
Mmh.
Vampire, c'est le monde des ténèbres, c'est quelque chose qui est le résultat de milliers de passions conjuguées.
Oui.
Et c'est pas seulement un éditeur qui sort ses mises à jour de manière un peu arbitraire. Voilà. Ils ont conscience qu'ils n'existent pas sans les joueurs. C'est agréable, hein,
Oui,
de sentir
oui,
cette
oui,
démarche.
oui. Mmh.
Voilà. Ensuite, c'est pas.
C'est dommage qu'ils attendent cette édition, cette édition pour le
Ah
reconnaître.
non, mais je pense que. Enfin bon.
Oh, c'est une boutade.
Je vais pas passer pour un fanboy, mais ils ont quand même communiqué depuis très longtemps
Ouais.
avec les joueurs. Ils m'ont jamais donné l'impression d'être entièrement fermé aux joueurs.
Ok.
Sans leur reconnaître non plus des mérites qu'ils n'auraient pas, hein, par rapport à d'autres. Mais bon, c'est vrai que si c'est votre seul bouquin de l'année, non. Parce que y aura pas de nouveauté là-dedans. Si vous avez joué à Vampire et que vous avez le budget pour ça, bon, on verra bien. Mais je
Et
pense que ce
si vous êtes un fanboy, il vous le faut.
sera une lecture agréable.
Ok. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci Cyril. Alors moi, je vais te parler de quelque chose de complètement différent, puisqu'il s'agit des ombres d'Esteren. Alors c'est donc à moi de te présenter un jeu qui s'appelle Les Ombres d'Esteren. C'est un livre qui est paru chez Agathe RPG Édition. Il s'agit donc d'un jeu de rôle médiéval aux accents horrifiques et gothiques, comme le souligne la quatrième de couverture. Alors, avant de passer au contenu, il faut noter que c'est un jeu qui a été créé par un collectif de créateurs qui s'appelle Forge Songe. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
Non.
Donc c'est alors je, il me semble qu'ils ont un statut associatif.
En réalité, si je crois me souvenir être passé justement devant leur stand au monde du jeu.
Donc c'est un collectif qui crée des jeux, des univers, des mondes. Et là pour le coup, ils se sont liés avec un éditeur qui s'appelle Agathe RPG. Je mettrai en ligne sur le site une interview que j'ai faite de l'éditeur en question. Donc sur le alors maintenant passons au jeu lui-même. Donc comme tu peux le voir, c'est un magnifique bouquin en quadrichromie, format A4, avec des illustrations qui sont vraiment très très belles, je trouve.
Oui, ça vient d'où? Ils ont fait appel à des illustrateurs externes ou ils ont une équipe ou
Alors en
comment ça
fait,
se passe?
l'un des créateurs du jeu est également l'un des illustrateurs du jeu,
Ça aide.
ce qui aide beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment un gros avantage parce que lorsque le créateur lui-même peut mettre en image ses propres visions d'un monde, on a tout de suite quelque chose de vraiment particulier. Donc le volume de base est donc consacré à l'univers dans ses grandes lignes avec système de jeu et tutti quanti. C'est donc un monde médiéval horrifique. C'est-à-dire que le contexte est globalement celui d'un monde médiéval plutôt classique, si ce n'est qu'il y a des créatures appelées les Feondas. Ah oui, il faut que je mentionne que c'est un univers médiéval celtique en fait. Donc, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'allusions à des mots en breton ou autre, mais ne le parlant pas moi-même, ça ne me dira rien. Donc, donc je reviens à ce que je disais, il y a des créatures
Les Féondas.
appelées les Féondas, dont on ne sait pas exactement d'où elles viennent, comment elles vivent, ce qu'elles font, si ce n'est qu'elles détruisent les villages. Elles elle ravage les récoltes, elle s'attaque aux gens, et on ne sait pas ni pourquoi ni comment. Alors maintenant, au niveau des civilisations qui sont en place, il y a trois grands royaumes qui coïncident plus ou moins avec trois grandes écoles de pensée sur ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une tradition, on va dire, druidique avec des hommes qui sont appelés les Démortaines, qui sont plus ou moins des druides, qui peuvent faire appel aux esprits. Donc aux esprits des bois, des rivières, etc. Et donc avec une forme de magie qui est associée. Il y a également le temple avec une forme de croyance différente, avec un dieu unique et qui a essaimé un petit peu partout avec ses temples et ses...
Et c'est une croyance monothéiste exclusive dans le sens où... ne pense pas que les esprits peut-être auxquels font référence les druides, les démons existent ou
effectivement
ils se battent sur l'existence même des uns et des autres ou ils disent bon bah nous notre dieu unique c'est le meilleur.
Alors je sais, alors à vrai dire je connais pas très exactement les détails des croyances, mais ce que j'ai pu en percevoir, à Rennes récemment, où j'étais en convention, j'ai eu l'occasion de jouer une partie de ce jeu. Ceux qui ont cette foi et donc qui ont établi des temples un petit peu partout, et bien ma foi, ils sont quand même obligés de composer avec les croyances locales, même si eux n'y croient pas. Donc ça se fait plus ou moins en bonne intelligence, avec également la troisième école de pensée de ce monde qui sont les magiantistes. Ce sont des hommes qui se sont tournés vers la science.
Donc c'est un mélange de magie et de science, c'est la magiance, c'est ça?
C'est-à-dire eux, les magiantistes, ils exploitent ce qu'ils appellent le flux. C'est-à-dire c'est une substance qui finalement est un peu l'équivalent du pétrole et qu'ils tirent de trois sources différentes, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux et tout ce qui est biologique.
C'est une substance physique donc.
Oui, tout à fait. D'accord, oui, tout à fait. C'est une substance physique qu'ils raffinent et dont ils se servent après pour obtenir des effets particuliers, mais qu'ils utilisent par le biais de machines. Par exemple, le personnage que je jouais avait une espèce de paire de lunettes qui lui permettait de voir la nuit grâce à une espèce de petite capsule de ce flux. Et donc, toutes les machines fonctionnent comme ça. Il y a par exemple l'une des grandes villes du jeu a une sorte d'ascenseur mécanique qui fonctionne grâce à ce flux. Évidemment, cela ne va pas sans poser des problèmes, puisque pour extraire cette espèce de pétrole, ils sont obligés d'exploiter des mines, plus ou moins. Donc il faut qu'ils fassent des forages, etc., qu'ils rasent des forêts. Donc on retrouve l'opposition classique quelque part entre les écologistes...
Entre UMP et écolo.
Entre les tenants de l'écologie et ceux qui sont pour l'exploitation des ressources naturelles. Et donc ces trois groupes que je viens de décrire sont évidemment à la recherche d'un moyen de lutter contre les Féandas dont je t'ai parlé. Évidemment, chacun se rejette la faute parce que les Templiers vont dire « Oui, ce sont les Démortaines qui, en invoquant Dieu sait quoi dans leurs esprits, là, ils font quelque chose qui n'est pas de ce monde et c'est entièrement de leur faute. » Les magiantistes, de leur côté, disent « Oui, les Templiers, avec leur dieu unique auquel on ne croit pas, ils jouent avec quelque chose qui les dépasse. »
« Perturbe le flux. »
Oui, voilà, exactement. Et évidemment, les druides disent « Oui, les magiantistes qui exploitent toutes ces mines, etc. etc. » etc. Il y a ces trois espèces d'écoles de pensée dont les personnages peuvent faire partie. Mais ces trois écoles ne s'opposent pas frontalement. C'est ça que j'ai plutôt apprécié. Finalement, ils sont obligés de composer les uns avec les autres et d'exploiter leur capacité à chacun pour le bien de tous. L'origine des Fondas n'est pas connue, et même du MJ, puisque pour le moment, ce n'est pas encore expliqué dans le livre. Il est prévu un développement de la gamme donc sur de multiples suppléments de campagne qui, au final, aboutira sur la découverte de ce que sont les fameuses ombres d'Esteren. Mais pour le moment, on a absolument aucune information. Et en fait, en discutant avec l'éditeur du jeu, celui-ci m'a dit que c'était afin que ce soit une surprise, même pour le MJ.
D'accord.
un peu à la manière de ce qui s'était fait, par exemple, pour Dark Earth.
Oui, d'accord.
Où l'explication de ce qu'était l'obscurité n'était pas donnée tout de suite. De ce qu'était le champ. Revenons un petit peu au jeu. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne le système. Donc, ça a l'air assez commun comme système, c'est-à-dire que, en gros, tu as Karak et compétences, qui est plutôt du classique, mais avec une nuance qui est particulièrement bien vue, je trouve, c'est que les Karak s'appellent les voix. Et en fait, ces voix sont au nombre de 5. Et définissent pas tellement les caractéristiques du personnage que son caractère. Ainsi, un personnage avec une forte créativité, qui est donc l'une des voix en question, à cette créativité est lié un travers, donc qui est un peu le pendant négatif de cette facette de son caractère. Donc pour la créativité, c'est une attitude rebelle et anticonformiste. Donc si tu as un personnage qui est très créatif, qui est susceptible d'inventer beaucoup de choses, il aura beaucoup de mal à se soumettre à une autorité. D'un autre côté, si tu as un personnage ayant une forte combativité, eh bien il sera soumis à ses passions et il sera prompt à faire quelque chose sur l'instant qui sera pas forcément très malin, mais c'est simplement un élan qui ne peut pas réfréner.
Donc ça donne des occasions de roleplay ?
Oui, tout à fait, oui. Et surtout, ça a l'avantage de typer très fortement ton perso avec simplement les caractéristiques de base de celui-ci. Donc il y a également des avantages, défauts, voilà, et des compétences et des possessions qui le définissent.
Raconte-nous un petit peu ta première partie.
Alors, moi, je jouais un jeune magiantiste qui était issu d'un petit village perdu au milieu de la montagne et qui, après avoir accompli de brillantes études, revenait sur les lieux de son enfance. Alors, ce qui était spécial avec lui, c'était que initialement, il avait été choisi par son père adoptif pour devenir druide comme celui-ci. Et donc, il avait commencé à acquérir les connaissances nécessaires pour communiquer avec les esprits. Et suite à un événement tragique, la mort de sa jeune sœur, il s'est dit que le druidisme ne permettant pas de sauver les membres de sa famille, de sauver les gens qu'il aimait, il fallait qu'il se tourne vers autre chose et donc il a décidé de partir. Il s'est donc rendu dans la grande ville la plus proche permettant d'acquérir ce type de connaissances et il est revenu plusieurs années plus tard afin d'apporter son aide aux villageois. Et c'est très amusant parce qu'en fait ce personnage il est extrêmement ambivalent. Il y a à la fois le fait que c'est le lieu où il est né, qu'il a des attaches fortes, qu'il connaît les gens, que quand il revient il les reconnaît mais il les voit un peu plus vieux, et puis il se rend compte que là où il vivait en fait c'est vraiment un trou tout pourri avec des bouseux, tu vois. C'est imagine au XVIe siècle, tu es un Auvergnat qui vit dans un petit village. Tu vas à Paris et là tu découvres des centaines de choses, tu apprends la médecine et tu retournes dans ton village après.
Est-ce que ton personnage est autobiographique, Je voudrais savoir. Est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans ?
Pas du tout. Et donc pour lui c'est vraiment la claque, quoi. Alors dans ce village il y a également donc toute une galerie d'autres personnages avec notamment le fils du chef qui sera amené à devenir lui aussi chef du village et qui s'est converti à la foi du temple. Il y a un autre personnage qui lui est un druide, donc il a la connaissance des esprits et tout ça. Et donc voilà, ça fait des personnages qui s'opposent sur un fond idéologique, mais qui sont obligés de coopérer parce qu'ils se sont rendus compte que dans le village d'à côté, il y avait eu un incendie bizarre et que des corbeaux s'accumulaient autour du village. Voilà. Je ne vais pas déflorer le scénario parce que je pense qu'il sera rejoué dans de nombreuses conventions et ce serait dommage qu'il soit obligé de le refaire à cause de moi. Mais il y a vraiment une ambiance horrifique qui se ressent vraiment et c'est vraiment très 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 agréable à jouer et donc ça permet de cumuler en quelque sorte les avantages d'un bon vieux Cthulhu des familles. Donc,
y compris avec le syndrome je reçois une lettre de mon cousin lointain, vite j'abandonne mon boulot, prends un congé sabbatique et je vais à l'autre bout du monde la foi de vieilles rumeurs.
Ça c'était ce qui était dans un casus. Je me souviens très exactement, oui, je reçois... comment je reçois un coup de fil d'un vieil oncle que je connais à peine? Pas de problème, je laisse tout ce que j'ai en cours. Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt un membre de ma famille dans un village éloigné me demande de venir le veiller parce qu'il est malade. Or, il est dans un endroit isolé. Enfin bon, bref, voilà. Donc, cela cumule un peu les deux univers et c'est vraiment très, très agréable à jouer. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à cette partie. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur une table où il y avait que des gens qui connaissaient très bien l'univers. Et voilà, c'est vraiment un jeu à découvrir qui est magnifiquement illustré, où les règles sont plutôt sympathiques. L'univers est très chouette, donc voilà, moi je trouve qu'il est vraiment bien.
Alors dis-moi quand même, c'est un univers médiéval, fantastique, médiéval, horrifique.
Oui.
Donc l'originalité par rapport à d'autres jeux un peu similaires, enfin, quand je pense à médiéval plus horreur, je pense un petit peu à Midnight par exemple, l'univers où en gros Sauron a gagné, ou alors je pense même à Warhammer avec ces entités chaotiques horribles qui se dissimulent dans la société humaine.
Alors c'est plus subtil que ça, dans le sens où dans Midnight le Sauron, tout le monde sait qu'il est là, tu vois, alors que là il y a quelque chose de sous-jacent, mais personne ne sait ce que c'est vraiment, puisque tout le monde se rejette la faute de ce qui se produit. C'est là, en fait, où il y a le vrai côté horrifique, c'est que l'horreur, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui est dissimulé, c'est ce qui est juste derrière juste derrière la porte, ou juste sous le lit. Donc voilà, c'est vraiment très différent des jeux que tu as cités, en tout cas. Et voilà.
donc c'est un jeu français.
C'est un jeu français, oui.
D'accord. Et de création française. Donc ils vont bientôt sortir des suppléments ou...
Alors il en est déjà sorti un qui est l'écran accompagné d'un gros livret.
Magnifique écran.
Oui, qui est très très beau, qui est donc un écran au format paysage, comme ce qui se fait beaucoup, donc en trois volets à quatre. Il est superbement illustré. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Et voilà, donc ils ont prévu pas mal de choses à suivre. Je pense que c'est une gamme que je vais suivre relativement attentivement.
Ok, donc tu nous le conseilles.
Oui, tout à fait, sans hésitation. Si le thème vous plaît, je pense que vous pouvez vous jeter dessus. Voilà, Cyril, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de ce que nous avions à dire ce mois-ci. Qu'est-ce que je voulais dire déjà tout à l'heure ?
Tu me dois de l'argent, non ?
Mais non, je ne te dois pas d'argent, tu mens.
Tu voulais saluer, je pense, nos confrères.
Ah oui, voulais passer à...
Nos frères de podcast.
nos confrères de podcast de La Cellule et Romaric en particulier, avec qui j'ai pu longuement discuter. Voilà, une fois que vous aurez ingurgité cet épisode de Radio Rôliste, vous serez mûr pour aller pour aller découvrir les podcasts de la cellule si ce n'est pas déjà fait. Ils sont vraiment très très bons. Je vous recommande particulièrement les hors-séries notamment ceux sur la scénarisation ou sur les jeux indépendants. C'est vraiment super intéressant. Jetez-vous dessus. Voilà. Bon, bien écoute, Cyril, je pense que nous allons nous dire au revoir.
Au revoir, Cobal.
Au revoir. Allez, au revoir à tous. Ciao.
Salut.